Est-ce qu'on attend Rodolphe aussi?
Bah, Rodolphe, comment ça se fait qu'il n'est pas là, Rodolphe?
Aller aux toilettes.
C'est mignon, ça. Comme surnom.
Je comment il s'appelle?
Rododolphe.
Comme vous voulez.
Allez.
Je sais pas, frère, j'appelle
le Rododolphe. Le rattrapera.
Voilà, ben, on prend donc la suite de ce matin. C'est un peu moins long, donc ça sera moins fatigant.
Le matin, on est plus jusqu'au après-midi.
Ah ben c'est ça, puis c'est l'heure de la sieste.
C'est l'heure de la sieste.
Vous pouvez ramasser les feuilles avec les petites. Ah ben voilà, très bien.
Donc on attaque le deuxième feuillet.
Voilà, résurrection 2. Voilà, donc si nous reprenons l'épître de saint Paul aux Colossiens, laquelle j'avais commencé ce matin, on trouve au début du chapitre 3 l'exhortation suivante. Donc c'est Colossiens 3, 1, 4. Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui, plein de gloire. Fin de citation. Alors ces lignes, elles exposent exactement les deux autres aspects de la résurrection que j'avais annoncé au départ. Donc la deuxième partie du dernier verset, « Vous aussi, vous serez manifestés avec lui plein de gloire », fait clairement référence à la parousie, comme l'affirme la fin de l'anamnèse de chaque messe, « Nous attendons ta venue dans la gloire ». Parler ainsi des temps de la fin, ou comme l'on dit aussi des fins dernières, et si peu à la mode aujourd'hui que les prédicateurs, sauf quelques-uns, je pense, hésitent à s'y hasarder, de crainte de se faire accuser d'illuminisme. J'ai personnellement été pris à partie lors d'une rencontre avec des parents et des catéchistes. On me disait « Vous croyez que c'est important pour les jeunes aujourd'hui, ça ? Au contraire, ça les détourne de l'urgence de leur vie chrétienne. »
Qu'est-ce que c'est que la vie
chrétienne ? Tel que c'est, hein, je vous le dis. Hein. Or, précisément, saint Paul lit bien les deux aspects. Dans la plus grande partie de la citation, il invite les Colossiens à vivre dès maintenant en ressuscité, allant jusqu'à leur dire qu'ils sont morts aujourd'hui au monde, au sens joannique, on peut dire. Dans le baptême, ils ont été plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui à la vie nouvelle, la vie éternelle, c'est-à-dire, dans les termes de saint Jean, qu'ils sont invités par le Seigneur à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, qui est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Dans une autre épître de la captivité, qui est la lettre aux Philippiens, Paul dit aux chrétiens de cette ville, en Philippiens 2, 15, 16, « Agissez en tout, sans murmure ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans tache, au sein d'une génération dévoyée et pervertie, d'un monde où vous brillez comme des foyers de lumière en lui présentant la parole de vie. Vous me préparez ainsi un sujet de fierté pour le jour du Christ, car ma course et ma peine n'auront pas été vaines. » D'autres passages de saint Paul donnent l'impression que l'apôtre envisage comme une réalité déjà acquise le triomphe final de ceux et celles qui ont été fidèles aux promesses de leur baptême. Ainsi, on lit en Éphésiens 2, 4, 6, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. » Ou encore, dans les Romains, chapitre 8, versets 9 à 11, pour parler de la vie dans l'esprit, Saint Paul déclare, vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du péché, l'esprit est vie en raison de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. On comprend ainsi, puisque le Christ est, comme Paul le dit encore en Colossiens 1,18, le premier-né d'entre les morts, que la résurrection du Christ accomplit d'avance ce que vivront tous les hommes à sa suite. Cette résurrection concerne leur nature humaine tout entière, c'est-à-dire leur âme et leur corps. Ceci, ajoute Danielou, se fera en deux temps. Dès maintenant, la gloire du Christ ressuscité retentit dans l'âme de ceux qui lui sont unis, mais, eschatologiquement, cette gloire retentira aussi sur leur corps par la résurrection de la chair. On peut considérer ces deux étapes, soit de manière chronologique, soit en parlant d'abord de ce qui adviendra après la mort et à la fin des temps, et ensuite de ce que la résurrection du Christ signifie pour nous aujourd'hui. Dans son ouvrage, Danielou suit la première démarche. J'ai préféré suivre la seconde. On parlera donc d'abord de ce qui est l'objet et le terme de notre espérance, puis, sous forme de conclusion, de la manière dont nous vivons cette espérance dans le monde où nous sommes pour l'instant. Je dis dont nous vivons ou essayons de vivre. Donc la signification eschatologique de la résurrection du Christ. Dans le cœur de tout homme et de toute femme, il y a une tension vers l'avenir. Comme le dit de son côté Bernard Sesboué, un autre jésuite, dans son petit livre intitulé « La résurrection et la vie, petite catéchèse sur les choses de la fin », page 18, il dit « Notre poursuite de l'avenir est en définitive la recherche d'une fin qui ne soit pas un simple terme, mais un but pleinement accompli. Dans cette orientation vers l'avenir se cache un désir de quelque chose de définitif, en d'autres termes, d'éternel. Cela seul peut donner sens et valeur aux pauvres efforts de notre vie et à l'amour qui la traverse. En langage chrétien, tout ce mouvement qui porte l'homme vers l'avenir s'appelle l'espérance. La foi nous dit qu'il est déjà habité par le don de Dieu. » Fin de citation. Le mystère de la foi chrétienne, fondé qu'il est sur l'événement que constitue l'irruption du Fils de Dieu dans notre monde, est, poursuit toujours Sesboué, tout entier eschatologique. La résurrection de Jésus est un événement de salut. Elle veut dire que malgré tous les événements tragiques qui marquent notre histoire, et on peut dire que ces dernières semaines nous en montrent hélas bien des preuves, l'humanité ne s'en va pas vers une catastrophe universelle. Le salut de cette pauvre humanité est, peut-on affirmer, d'une certaine façon, déjà accompli. Le mouvement vers la plénitude est irréversible. La vie éternelle est déjà là, même si la venue du Christ en gloire ne sera pleinement visible qu'au jour dernier. Pour emprunter à nouveau les mots de Sesboué, il n'y a plus de rupture entre le temps et l'éternité. Par le Christ, le temps a enfanté un salut éternel. Nos libertés sont elles aussi capables de s'engager pour un enjeu éternel. Jugement particulier et jugement dernier. Par notre fréquentation de l'Écriture, on connaît bien ce que les exégètes nomment le genre apocalyptique. En effet, pour décrire les temps de la fin, les prophètes en premier, mais surtout les évangélistes qui reprennent les paroles mêmes de Jésus, nous découvrent des scènes grandioses dont certaines peuvent sembler très effrayantes. À certains, en tout cas. Le Seigneur annonce dans les trois synoptiques de grandes tribulations qui précéderont l'avènement du Fils de l'homme. En Matthieu 24, 1, 44, Marc 13, 1, 35, Luc 17, 17 et 23, 25 et 21, 5, 31. mais c'est pour rappeler ses disciples à la vigilance et les inviter à ne pas craindre. Luc 21-28, quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. En effet, la venue définitive du Christ en gloire inaugurera une ère de paix définitive, où toute souffrance cessera. C'est bien ce que décrit saint Jean dans son Apocalypse, en Apocalypse 21:1-5. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Sans surprise, plusieurs expressions dans ce texte figurent déjà chez les prophètes de l'Ancienne Alliance, notamment chez Isaïe et Ézéchiel. Ézéchiel 37-27, Isaïe 7-14 et suivant, et 25-8 et 35-10. Le jugement de l'humanité sera prononcé par le Christ en gloire. Matthieu 25-31-46, on en parlait je crois ce matin, il séparera les gens les uns des autres, il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche, et ils s'en iront ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Cependant, avant ce jugement dernier définitif, chaque âme humaine va connaître un jugement particulier au moment de la mort du corps. En Luc 16-19-31, on voit ce qui arrive respectivement au mauvais riche et au pauvre Lazare. Jésus raconte également une autre parabole sur Luc 12-16, cet homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, et qui, en se fondant sur ce succès, échafaude de magnifiques projets. La conclusion de la parabole est édifiante. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même on va te redemander ton âme, et ce que tu as amassé, qui l'aura ?» Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Alors l'immortalité de l'âme est clairement affirmée par le Seigneur lui-même. En Matthieu 10-28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la géhenne. » Croire au moins en l'immortalité de l'âme est une exigence minimale pour le chrétien, pour ceux qui se disent chrétiens, qui ne croit pas à l'existence d'une vie après la mort. Faisant allusion, en passant, aux doctrines gnostiques qui ont persisté depuis les premiers siècles du christianisme jusqu'à nos jours, Danielou souligne en effet « De même en est-il des doctrines qui ne voient dans la résurrection qu'une expression des transformations de la cité terrestre et considèrent comme mythique l'existence d'une vie au-delà de la mort. » Néanmoins, en termes vraiment chrétiens, on ne peut pas se contenter de parler seulement d'immortalité de l'âme, au sens où l'entendaient les philosophes grecs, en particulier Platon et ses disciples, car ceci est lié à la question délicate de ce qu'on appelle la vision béatifique. On va en parler de la vision béatifique maintenant. Celle-ci se pose dans les termes suivants. Une âme sainte, on a beaucoup parlé ce matin de ça, peut-elle, au moment de la mort de son corps, jouir ou non du face-à-face bienheureux avec Dieu. Au Moyen-Âge, comme l'a rappelé le frère Jean-Marc, certains théologiens et même un pape, Jean XXII, ont défendu la théorie d'un report. Il y aurait, selon eux, entre le jugement particulier et le jugement dernier, un entre-deux, une sorte d'hibernation, de mise en réserve de l'âme défunte, qui devrait attendre la fin des temps pour bénéficier pleinement de la résurrection. Cette hypothèse est, on peut le voir, en contradiction avec notre croyance chrétienne en la descente du Christ aux enfers. L'icône, j'en ai parlé ce matin, l'icône la plus connue de la résurrection du Christ, montre en effet le Christ remontant des enfers avec les âmes saintes dont l'existence terrestre a précédé sa venue parmi nous. Et, soi-disant, je rappelle que nous avons soin de célébrer cela le samedi saint. C'est pourquoi un successeur de Jean 22, Benoît XII, affirma solennellement dans une constitution apostolique intitulée « Benedictus Deus » qui a été promulguée le 26 janvier 1336 que la vision béatifique des saints est immédiate, même avant la résurrection de leur corps et le jugement dernier. Voici le texte de cette constitution qui a été reproduit dans le bouquin de Sesboué, « Le bonheur des âmes au ciel ». Depuis la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, elles ont vu et voient l'essence divine d'une vision intuitive et même face à face, sans la médiation d'aucune créature qui serait objet de vision. La divine essence se manifeste plutôt à eux, immédiatement à nu, clairement et à découvert, en latin « nude clare et aperte ». Et par cette vision, elles jouissent de cette même essence. En outre, par cette vision et cette jouissance, les âmes de ceux qui sont déjà morts sont vraiment bienheureuses, et elles possèdent la vie et le repos éternel. Les âmes de ceux qui mourront dans la suite verront cette divine essence et en jouiront avant le jugement général. Une telle vision et une telle jouissance de l'essence divine font disparaître dans ces âmes les actes de foi et d'espérance, la foi et l'espérance étant des vertus proprement théologales. De plus, après qu'une telle vision intuitive face à face et une telle jouissance ont ou auront commencé, cette même vision intuitive face à face et cette même jouissance ont duré et dureront sans interruption et sans fin jusqu'au jugement dernier et dès lors à jamais. Néanmoins, observe Sesboué, dans cette décision de Benoît XII, dont on a déjà parlé ce matin, il faut entendre le terme « âme » au sens biblique. Pour la foi chrétienne, le corps et l'âme ne peuvent pas être totalement séparés l'un de l'autre, au point qu'il n'y aurait plus aucun rapport entre eux. Il faut admettre que subsiste au-delà de la mort un rapport incomplet qui échappe à notre espérance. Irénée de Lyon, au IIe siècle après Jésus-Christ, disait « L'âme à elle seule n'est pas davantage l'homme. Elle n'est que l'âme de l'homme, donc une partie de l'homme. L'esprit n'est pas non plus l'homme. On lui donne le nom d'esprit, pas celui d'homme. C'est le mélange et l'union de toutes ces choses qui constituent l'homme parfait. Ou encore, l'homme parfait, c'est le mélange et l'union de l'âme qui a reçu l'esprit du Père et qui a été mélangée à la chair, modelée selon l'image de Dieu. » Dans « Contre les hérésies », chapitre 5. Sesboué commente « La vie des justes en Dieu est donc déjà d'une manière incomplète et non manifestée une résurrection du corps. D'ailleurs, l'humanité corporelle et pleinement ressuscitée du Christ exerce une médiation éternelle pour notre accès à la vision bienheureuse du Père, ce qu'on disait ce matin. Comment pourrait-elle assurer une telle médiation vis-à-vis d'âmes séparées? Il faut donc, pour comprendre l'articulation entre la première et la seconde résurrection, parler de la résurrection de la chair. » Donc maintenant, on parlait de la résurrection de la chair. Nous affirmons dans notre credo chaque dimanche, nous croyons à la résurrection de la chair. Alors on sait toute l'importance et l'attention que accordé à cela saint Paul, dans le 15e chapitre de la première aux Corinthiens. Dans le monde grec, que Paul a particulièrement contribué à évangéliser, la notion de résurrection de la chair était quasiment inaudible. Les philosophes considéraient le corps comme étant nécessairement voué à la génération et à la corruption. Il suffit de se remémorer le passage des Actes, où Paul fait un discours devant l'Aréopage d'Athènes. S'efforçant de s'adapter à son auditoire, Paul, après s'être réjoui que les Athéniens aient édifié un autel au Dieu inconnu, leur déclare qu'il vient leur annoncer ce qu'est vraiment cette divinité. Il affirme avec eux, pense-t-il, que c'est en elle que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Jusque-là, ses auditeurs veulent bien l'écouter. Mais, lorsqu'il ose annoncer peu après que Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il y a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts, la réaction des Athéniens est immédiate. Acte 17, 30-32, à ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». L'apôtre n'a plus qu'à se retirer. Alors les actes ajoutent quand même « Seul, quelques hommes cependant s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Denis l'Aréopagite fut du nombre. Il y eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. » 17, 34. Par la suite, Paul renoncera à tenter de convaincre par ce type de discours. Il cherchait à ménager le cheval fou, c'est-à-dire ménager des personnes imprégnées de philosophie grecque. Il trouvera même dans la communauté chrétienne naissante de Corinthe des gens qui vont refuser de croire à la résurrection des morts. C'est ce qu'on voit au verset 12 du chapitre 15. Or, si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? C'est pourquoi il les met en garde dès le début de ce chapitre 15, de sa première épître. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, vous auriez cru en vain. » 1 Corinthiens 15, 1 et 2. Suit immédiatement sa propre confession de foi. Il demande à ses destinataires de réitérer avec lui. « Je vous ai donc transmis, en premier lieu, ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Képhas, puis aux douze, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, quelques-uns se sont endormis, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. » Je l'ai cité ce matin déjà. « Si cette croyance en la résurrection est abolie, alors, affirme-t-il avec force, la foi chrétienne serait totalement vidée de son contenu. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Vous êtes encore dans vos péchés. Alors aussi, ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si nous, qui sommes dans le Christ, n'avons d'espoir que cette vie, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Versets 17 à 19 du chapitre 15. Au contraire, naturellement, l'apôtre réaffirme avec force la réalité de la résurrection des morts, que la résurrection du Christ a rendue possible. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même, en effet, que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. Verset 20-22. Puis, il évoque la fin des temps, lorsque le Christ en gloire remettra tout à son Père. Puis, ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. 24-28. Néanmoins, les Corinthiens ne sont pas du tout satisfaits, pas entièrement satisfaits en tout cas, par les propos de Paul sur la résurrection. L'apôtre lui-même s'en fait les coups. Et dira-t-on, verset 35, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? À cette question, il n'est pas facile de donner une réponse pleinement satisfaisante. Paul le reconnaît à demi-mot, en interpellant un éventuel contradicteur. Verset 36-38. « Insensé, Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain, soit de blé, soit de quelque autre plante. Et Dieu lui donne un corps à son gré, à chaque semence, un corps particulier. On ne peut pas reprocher à l'apôtre de ne pas disposer des connaissances biologiques d'aujourd'hui. Comme le remarque Sesboué, comme Paul et ses contemporains sont complètement ignorants du processus biologique qui fait passer de l'une à l'autre, la semence à la plante, le mouvement de la végétation est l'expression immédiate de la toute-puissance de Dieu qui fait jaillir les corps les plus étonnants de la pourriture de la semence. Il s'agit probablement proprement d'un miracle. Paul admire aussi la différenciation des espèces, rigoureusement respectée à travers le cycle des générations. De la semence végétale, il passe à la semence animale, qui, par un processus analogue dans le corps féminin, comparé aux entrailles de la terre, construit un nouveau corps vivant selon chaque espèce, homme, bête, oiseau, poisson. 1 Corinthiens 15, 39-41. Et l'auteur de l'Épître applique cette comparaison à la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé dans l'ignominie, on ressuscite dans la gloire. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. On est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. 42-44. De son point de vue, l'homme passe donc d'un corps animal, bien sûr périssable, à un corps spirituel, incorruptible et glorieux. Si certains hommes sont encore vivants dans ce monde terrestre au dernier jour, ils revêtiront eux aussi immédiatement un corps spirituel glorieux. 51-53. Oui, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que cet être incorruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. Alors ce passage biblique, en particulier à cause de la notion de corps spirituel, a fait couler beaucoup d'encre à travers les siècles. Par exemple, le philosophe néoplatonicien et théologien anglican sur lequel j'ai fait ma thèse d'état, y consacre plusieurs pages dans son monumental ouvrage intitulé, aujourd'hui on aurait pu donner un titre pareil, Le véritable système intellectuel de l'univers. Et je ne vous dis pas la suite parce que c'est un titre en trois lignes avec réfutation d'athéisme. Que penser dans notre 21e siècle de la comparaison de saint Paul? Comme Sesboué le dit, nous connaissons en effet les processus biologiques complexes de la génération des plantes et des animaux. Et nous savons à partir de quoi se constitue le corps végétal et animal. Ces réalités ne sont plus pour nous des miracles, même si c'est admirable. Il y aurait d'ailleurs erreur à imaginer un processus biologique analogue, mais un corps inconnu, pour rendre compte de la résurrection des morts. Ceci ne nous empêche pas d'admirer la puissance créatrice de Dieu dans le mouvement merveilleux de la vie. Ceux d'entre nous qui sommes parents ne peuvent que contempler avec émerveillement ce petit bébé qu'ils ont certes procréé, comme on dit, mais n'ont pas créé au sens strict. Mais nous sommes encore plus contraints de parler de miracle à propos de la résurrection des morts, dans la mesure où nous savons que la comparaison biologique de Paul ne tient pas. Comme le dit fort justement Sesboué, la disproportion entre corps actuel et le corps ressuscité est infiniment plus grande que celle qui existe entre le gland et le chêne. Les moyens que Dieu prendra pour la résurrection des corps nous échappent totalement. Et celui qui a la puissance de la création a aussi la puissance de la recréation. Cependant, que comprendre dans l'expression corps spirituel? Notre corps physique est, on peut dire, l'instrument par lequel nous entrons en communication avec nous-mêmes et avec les autres, ainsi qu'avec le monde terrestre qui nous entoure. Il est situé dans l'espace et dans le temps. Et comme le montre l'auteur d'un article de la Nouvelle Revue Théologique que cite Sesboué, il devient par là une histoire. En notre corps se récapitule notre histoire individuelle à mesure que nous la vivons et la faisons. Dans ces conditions, on ne peut pas réduire notre corps à être un composé physico-chimique ou une réalité organique ou biologique. Certains philosophes du XXe, tels le phénoménologue Maurice Merleau-Ponty, ont très justement affirmé que nous n'avons pas un corps, mais nous sommes un corps. De ce point de vue, le langage biblique est beaucoup plus adéquat. Dans la mesure où il ne parle pas d'un composé hors âme, comme les penseurs grecs, mais de la chair et de l'esprit. On en a parlé ce matin. Autrement, on ne pourrait pas comprendre, comme nous l'affirmons dans le credo à la suite de saint Jean, que le Verbe s'est fait chair. Le rapport qui unit les deux principes, l'âme et le corps, en un seul être, est constitutif de l'existence de chacun d'eux. La résurrection de la chair affirme donc à la fois une continuité et une discontinuité entre notre état présent et notre état futur. Continuité respectueuse de notre identité historique, discontinuité qui, à travers la brisure de la mort, nous fera passer de la condition empirique marquée par le péché à la condition de corps spirituel et glorieux, c'est-à-dire d'un corps entièrement réconcilié avec l'esprit. Du même coup, le corps ressuscité sera libéré de toutes les contraintes et nécessités naturelles qui le rendent périssable. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, le corps se fait alors esprit, tandis que l'esprit se fait corps incorruptible. Pour avoir quelque idée de ce que peut être un corps ressuscité, on peut avoir recours au récit des apparitions du Christ ressuscité. Le Seigneur n'apparaît pas dans son corps glorieux tel qu'il apparaîtra une fois qu'il sera assis à la droite du Père. Il apparaît aux disciples en continuité avec le personnage historique qu'ils ont connu et suivi pendant les 3 années de son ministère public. Et pour le montrer, on l'a vu ce matin, il partage avec eux nourriture et boisson. Mais il échappe désormais aux limites de l'espace et du temps, puisqu'il leur apparaît à son gré là où il veut. On peut aussi songer aux expériences mystiques des saints, pendant lesquelles il semble échapper à ses limites et être comblé d'une joie et d'une paix, dont Paul, en Philippiens 4:7, dit qu'elle surpasse toute intelligence. Différence entre résurrection et réincarnation. Il n'est pas inutile de revenir un instant, comme on en parlait ce matin, sur l'immense différence entre la résurrection et la réincarnation qui séduit tant nos contemporains, notamment dans la mouvance du Nouvel Âge, mais pas seulement, sous l'influence du bouddhisme ou de l'hindouisme, alors que précisément ils refusent la réalité de la résurrection. La réincarnation est bien pour eux une doctrine de salut, dans la mesure où le passage d'un corps à un autre après la mort constitue soit une rétribution pour une bonne vie antérieure, soit au contraire une punition due à une mauvaise conduite. On pourrait se demander pourquoi les gens ressentent depuis déjà plusieurs décennies, on en parlait aussi ce matin, un attrait pour cette doctrine, dans un monde qui refuse désormais la bonne nouvelle du salut en Christ. Reconnaissons qu'il y a chez ces personnes une recherche de sens dans leur vie, et notamment une réponse à la question de l'existence après la mort et de l'omniprésence du mal sur cette terre. En outre, il s'agit d'une solution volontariste par laquelle un individu assure son propre salut sans avoir vraiment besoin de recourir à l'hypothèse de l'existence d'un Dieu quelconque. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Cette affirmation constitue un autre article du credo qui suit immédiatement les mots « Il est monté aux cieux et est assis à la droite du Père ». Le retour du Christ en gloire, ce qu'on appelle encore la parousie, est clairement annoncé par les évangélistes. Par exemple, chez saint Matthieu au moins 3 fois. Matthieu 10, 23, 16, 25, 19, 28. Nous avons déjà rappelé que, selon les mêmes évangélistes, ce retour sera précédé de scènes apocalyptiques. Ce sont après de terribles tribulations que soudain apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Matthieu 24, 30. L'apôtre Paul fait les mêmes annonces dans les épîtres aux Thessaloniciens. Par exemple, dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, « Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. » Ou, dans la première aux Corinthiens, chapitre 15 toujours, verset 14, 28, « Ce jour-là sera celui de la résurrection des morts, comme indiqué dans la première aux Thessaloniciens 4, 16, 17, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier, après quoi nous les vivants, nous qui serons encore là, parce que vous savez que Paul, les premiers chrétiens, croyaient un peu que ce serait pour très bientôt, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Donc les premiers chrétiens vivaient clairement dans cette disposition, à savoir l'attente très proche du retour du Christ, jusqu'à temps que ça change un peu. L'Apocalypse de Jean s'en fait aussi l'écho, comme on le voit non seulement dans les descriptions du combat eschatologique, mais aussi dans la finale, en 22-20 de l'Apocalypse. Le garant de ces révélations l'affirme, « Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Associé aux souffrances du Christ, et souvent même aux persécutions, ces premiers chrétiens espéraient son retour proche. Comme le conclut encore Sesboué, car il y a une correspondance entre le mystère du Christ et le sort des chrétiens. Ceux-ci souffrent aujourd'hui comme le Christ a souffert. Ils régneront avec lui de même qu'il règne. Ainsi, la confession de foi en Jésus n'est-elle pas rivée à un événement passé, elle est aussi tendue vers l'avenir par l'espérance de la seconde venue du Seigneur. Alors pourquoi tant de nos contemporains, on a déjà parlé ce matin, même chrétiens, ont des difficultés pour accepter cet article du credo? D'abord, sans doute, parce que le langage des apocalypses bibliques ne nous est pas familier, sinon pour annoncer la possibilité de catastrophes rendues possibles par des « progrès » entre guillemets, technico-scientifiques ou techno-scientifiques, dont l'usage pourrait provoquer des désastres. Nous ne savons que trop. Il suffit de penser à Hiroshima et Nagasaki. Et en même temps, parce qu'il semble difficile d'harmoniser nos connaissances astronomiques ou astrophysiques avec un langage de type d'apparence mythique. D'ailleurs, ce qu'on appelle le concordisme, c'est-à-dire la volonté de faire coïncider strictement les représentations religieuses et ce que la science découvre au fil des années sur l'origine du monde, n'est plus accepté par l'Église, même si cette question demeure discutable. Comment alors comprendre le sens de ces représentations qui n'apparaissent pas seulement dans les apocalypses au sens strict, mais également dans les propos adressés par le Seigneur Jésus lui-même à ses disciples? Il s'agit sans doute de nous montrer que ce qui s'est passé lors de la mort et la résurrection du Christ se reproduira analogiquement à la dimension de tout son corps qui est l'Église. Chacun des chrétiens est appelé, comme l'Église tout entière, à mener un combat contre les forces du mal et contre leur auteur, l'adversaire, le diviseur, jusqu'à la fin des temps. Les textes de Vatican II, spécialement dans Lumen Gentium, le décrivent ainsi. L'Église pérégrinante, ou militante, comme on veut, porte la figure de ce siècle qui passe. Elle vit parmi les créatures qui gémissent et sont maintenant encore en travail d'enfantement, et elles attendent la révélation des fils de Dieu. Évidemment, c'est une référence à Romains 8, 19, 22. Jésus a enfin connu la victoire de la résurrection définitive. L'Église la connaîtra également de manière parfaitement achevée lorsque le Seigneur ressuscité reviendra pour faire communier l'humanité à sa vie. Le royaume de Dieu inauguré sur la terre se dilatera alors pour recevoir de Dieu son achèvement. Lumen Gentium 9. C'est en ce sens que l'on peut dire que l'événement de la résurrection du Christ a une dimension eschatologique. Vous tous qui êtes familiers avec l'Écriture, et spécialement les Évangiles, vous allez sûrement dire « Mais le Seigneur Jésus n'a-t-il pas annoncé son retour comme tout proche ?» Par exemple, en Matthieu 24, 34, 35. « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne sera arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Dans certains textes de Paul, comme la première aux Thessaloniciens chapitre 4, versets 16-17, qu'on a lu tout à l'heure, l'apôtre semble bien envisager, comme beaucoup des premiers chrétiens, cet événement comme imminent. Néanmoins, dans le verset 36 du chapitre 34 de Matthieu, Jésus ajoute qu'il en ignore encore la date, lui-même la date. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît. ni les anges dans les cieux, ni le Fils. Personne que le Père seul. Même déclaration en Marc 13, 32. Ensuite, à l'annonce de la manifestation glorieuse du Fils de l'homme, quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne que le Père. En tous ces textes, on peut néanmoins percevoir une insistance sur l'urgence de la conversion. On reviendra là-dessus dans la dernière partie. On méditera sur la signification de la résurrection du Seigneur pour nous-mêmes aujourd'hui. On ne peut pas pour l'instant faire l'économie de deux aspects importants qui font partie de l'annonce du retour en gloire du Christ. Premier aspect, c'est la perspective d'une recréation. Si la création tout entière est à présent, on l'a dit plusieurs fois, dans l'attente de la révélation des fils de Dieu, ceci veut dire que le cosmos tout entier sera renouvelé à la fin des temps. Saint Paul observe que le temps se fait court, car elle passe, la figure de ce monde, 1 Corinthiens 7, 29-31. Ou encore que le dessein de Dieu est bien de ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Chapitre 1 des Éphésiens, verset 10. Affirmation que l'on trouve dans le grand hymne introduisant la lettre aux Éphésiens, bien connue, qui est même qu'on chante, et qui est reprise dans celui qui introduit l'épître aux Colossiens, en Colossiens 1, 18-20. Il est le principe, premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtînt en tout la primauté, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude, et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. L'auteur de l'Apocalypse souligne que le monde présent est appelé à disparaître. D'abord, lors de l'ouverture du sixième sceau, en Apocalypse 6, 12, 17, et ensuite après le second combat eschatologique, Apocalypse 20, 11. Puis, je vis un trône blanc très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face, sans laisser de traces. Après quoi, j'en vois un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en a plus, et la Jérusalem nouvelle descendre du ciel d'auprès de Dieu. 21, 1 à 2. Bernard Sesboué conclut, « Le message que nous avons à retenir, c'est que le salut concerne notre corps, à la fois comme corps personnel, comme corps social et comme corps solidaire du cosmos. Aucune dimension de notre être et de notre agir n'y échappe. » Le deuxième aspect important lié à l'annonce du retour du Seigneur, c'est bien entendu le jugement dernier. Ce jour est déjà annoncé dans de nombreux passages de l'Ancien Testament. Il s'agit d'une intervention spectaculaire, voire terrible, de Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël. Et déjà se profile la perspective d'un dernier jugement à la fin des temps. Si vous avez été attentif aux lectures proposées par la liturgie de l'Église au cours des dernières semaines, vous aurez entendu plusieurs fois l'un ou l'autre des prophètes de l'Ancien Testament parler du jour du Seigneur, grand et redoutable, quand seront jugés à la fois Israël et toutes les nations. Après la venue de Jésus et l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, les apôtres vont définir ce jour du jugement comme celui qui est le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 7-8. Paul déclare aux chrétiens de Corinthe, « Ainsi ne manquez-vous d'aucun don de la grâce dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira jusqu'au bout pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Saint Jean, pour sa part, rapporte ce que Jésus lui-même révèle de la volonté de son Père. Après avoir guéri l'infirme de la piscine de Bézata, en Jean 5, 25-27. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même, et il lui a donné d'exercer le jugement, parce qu'il est Fils d'homme. Saint Matthieu, nous le savons, décrit ce jugement de manière grandiose dans ce passage du chapitre 25 de son évangile, déjà cité, 25, 31-32. Chacun des hommes et chacune des femmes de l'histoire humaine seront jugés sur la charité qu'ils auront ou non exercée à l'égard des plus petits, des affamés, des assoiffés, des étrangers, de ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir, des malades et des prisonniers, parce qu'en tout ceci, il est lui-même présent. De la même façon, en apparaissant à Saül sur la route de Damas, il dira « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Suite à quoi, celui qui était un intraitable persécuteur des premiers chrétiens deviendra l'apôtre Paul. Actes 9, 4, 6 et suivant. Le même Paul et les autres apôtres et disciples ne cesseront d'annoncer le jour du jugement dans leurs prédications. Paul en parle dans le discours devant l'Aréopage, auquel on a déjà fait allusion. Actes 17, 31 et ça et là dans ses lettres. Par exemple, en Romains 2, 35, 2 Timothée 4, 1,41 ou 1 Corinthiens. Pour lui, néanmoins, il n'y aura pas de résurrection des méchants. Alors que Jean, à la suite des versets du chapitre 5 de son évangile de la cité, ajoute « N'en soyez pas étonnés, car elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. » Jean 5, 25, 29. À ce propos, une question demeure. N'y a-t-il pas contradiction entre l'universalité du salut, en qui semble constituer l'amour du Père, et cette rétribution qui semble impitoyable et inexorable? Sesboué répond comme suit. Le jugement dernier ne sera pas la décision d'un juge impitoyable ayant le goût de punir toutes les faiblesses humaines. Ce jugement est fondé sur le jugement de condamnation du péché et de justification du pécheur accompli par la croix du Christ. Car la justice de Dieu est d'abord une justice qui sauve, justifie et sanctifie. Il n'y aura donc pas de jugement de condamnation que pour ceux qui auront formellement refusé le salut offert par le Christ. Donc j'en arrive à la conclusion, il est temps. Le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Quel est le retentissement de la résurrection du Christ dans notre vie d'aujourd'hui? On connaît bien cette réflexion attribuée au philosophe athée qui était Friedrich Nietzsche. Je croirai en Dieu le jour où les chrétiens auront des gueules de ressuscité. Dans le monde où nous vivons, et particulièrement ces dernières semaines, avons-nous suffisamment des visages de ressuscité? Pour le dire autrement, avons-nous des visages de gens qui ont pleinement confiance dans les perspectives de salut que Dieu nous offre à travers sa parole et à travers les moyens de grâce qu'il nous offre dans son Église? Sommes-nous pleins d'espérance, quoi qu'il arrive? Avons-nous la certitude dès maintenant que, comme l'affirme saint Jean dans sa première épître, nous sommes passés de la mort à la vie? 1 Jean 4, 14. Ou pour le dire autrement, toujours en termes johanniques, avons-nous la conviction que dès maintenant nous avons reçu la vie éternelle? Toutes ces questions peuvent faire l'objet d'un partage. On a déjà commencé d'en parler. Pour saint Paul aussi, il n'y a pas de doute que la résurrection du Christ commence déjà actuellement à opérer son effet vivifiant, en faisant de celui qui croit un vivant spirituel, bien que son corps soit déjà soumis à la mort. L'apôtre le déclare explicitement dans ce grand passage des Éphésiens, où on a déjà fait référence, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. » Éphésiens 2, 4, 6. Être ressuscité, c'est être vivant de la vie de Dieu. Comme le dit encore Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Galates 2, 20. On aurait beau jeu de lui répondre, mais quand on souffre, ou que l'on voit un ou des êtres chers souffrir, comment pouvons-nous prétendre cela? Paul y a répondu dans le verset précédent, « Je suis crucifié avec le Christ. » Galates 2, 19. Nous connaissons tous, soit dans notre histoire personnelle, soit dans celle de personnes que nous connaissons, de véritables résurrections. Soit à la suite de prières, en particulier communautaires, soit à la suite de conversions spectaculaires. Au moins deux personnes de nos connaissances qui étaient plongées dans un profond coma dont les médecins doutaient qu'elles ne puissent se remettre, et qui, à la suite de la prière fervente de plusieurs chrétiens ou chrétiennes, ont recouvré tous leurs moyens et leur santé. Pouvons également trouver sur Internet des témoignages de ce type. Ainsi, dans une vidéo réalisée par le groupe Notre-Dame de Lumière, NDML, dont je parlais ce matin, qui propose chaque soir un chapelet à 19h30 sur sa chaîne YouTube, d'un homme qui, ayant vécu une enfance assez douloureuse, ainsi qu'une adolescence et les premières années adultes marquées par la délinquance, la drogue et une vie sexuelle débridée, qui a fait également partie de plusieurs groupes de rappeurs célèbres, s'est retrouvé un jour à genoux, pleurant pendant 4 heures sur ses péchés, avec devant lui le Seigneur Jésus-Christ, qui lui faisait ressentir ses propres douleurs infinies de crucifié. Sa vie a complètement changé, d'autant que quelque temps après cette rencontre surnaturelle, il a vu de ses yeux la très sainte Mère de Dieu, qui lui demandait de désormais suivre en tout son divin Fils. En même temps, quelle que soit l'intensité de telles étapes spirituelles, il n'en demeure pas moins que notre expérience de la résurrection en ce monde, notre vie chrétienne, demeure tendue dans l'attente du jour où nous rencontrerons le bien-aimé, au moment de notre mort, et ensuite du jour dernier où les morts ressusciteront dans la chair et où tous les humains seront jugés par lui. Cette attente, nous la vivons déjà dans le royaume, si nous avons entendu l'appel qu'il nous a fait entendre au début de son ministère public. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous, vous croirez à l'Évangile. Marc 1:15, Matthieu 4:12-17, Luc 4:14-15. Cet appel n'est pas à entendre et à mettre en pratique une seule fois, mais tout au long de notre vie. On connaît l'histoire de ce prêtre très âgé, auquel un jeune confrère demandait « Ah, Père, racontez-moi s'il vous plaît votre conversion », et qui lui répondait « Laquelle ?» De la même façon, nous nous souvenons de tous ces grands saints qui, à la fin de leur vie, voulaient tout reprendre à zéro. Notre père saint François d'Assise, également saint Thomas d'Aquin, qui voulait brûler tous ses traités théologiques et tant d'autres. Nous sommes tendus vers l'avenir, vers cette vie magnifique du ressuscité à laquelle nous participons déjà, et dont nous espérons connaître la plénitude. Nous passons d'une étape à l'autre de notre vie avec des rechutes, des échecs, mais aussi de grands moments de grâce et d'avancée vers le Seigneur en recevant à nouveau son pardon. Nous habitons, comme le notait sainte Thérèse d'Avila, plusieurs demeures successives, mais en n'étant jamais à l'abri de retomber dans les demeures précédentes, nous perdons de vue celui qui nous aime infiniment et que nous essayons d'aimer. Nous l'entendons nous dire, viens vers le Père, comme saint Ignace d'Antioche, et nous confions chaque jour à la grâce de l'Esprit Saint, confiant dans l'intercession ininterrompue de la toute pure, de son époux très chaste, de tous les anges et de tous les saints. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Maranatha, viens, Seigneur Jésus, que vienne ta grâce, que ce monde passe, tu seras tout en tous. »